souhaiter une bonne heure à tous ceux qui sont en studio présentement. Je pense à Jean-Sébastien qui est en régie. Robert Blondin qui est à mes côtés, salut.
Hey, je regarde ton regard. Il y a assez de soleil là-dedans pour faire fondre la glace avant que ça... la glace revienne.
J'aimerais ça que ça regèle pas, ça semble. Va manquer de sel dans les épiceries. Souhaitez une bonne heure à tout le monde qui est en studio. C'est comme beau. Bonne heure pour aimer la vie. C'est comme un bon contexte. C'est une belle entrée de jeu. Je vous souhaite une bonne heure à tout le monde. Emmanuel Robitaille, Robert Blondin avec vous pour les prochaines 60 minutes pour aimer la vie. Oui, bienvenue à Aime la vie.
And I'm feeling what I do. Never gonna fall in line. I'm a rebel at my roots. You can't control. You can't control.
Zach Abel, la chanson « Don't Belong » qui est ma découverte des 30 derniers jours, je dirais. Mon nom verbal parle très fort. Je trouve ça vraiment, vraiment bon. En espérant que vous partagiez cette joie et ce bonheur musical.
En tout cas, c'est meilleur que Maroon 5.
Pourquoi tu dis ça? T'as-tu écouté le Super Bowl?
Ouais.
T'as pas aimé ça?
Pas en tout.
Ah non?
Ben, Super Bowl, t'as plate parce qu'il avait passé de points, mais le spectacle de la mi-temps, c'est une horreur, cette affaire-là.
Oh, Adam Levine, on s'excuse, mais moi, j'ai pas la télé et, tu sais, le football, c'est non. Donc, vraiment...
Moi, c'est Maroon 5 qui est non.
T'sais. Ouais, c'est ça, mais moi, tout ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est deux photos une qui comparait la camisole de Maroon 5 avec un coussin de divan, puis l'autre qui comparait la camisole de Adam Levine avec le rideau du salon. Fait que vraiment, et c'était vraiment la même affaire, c'était vraiment les mêmes carrés. Donc je me suis dit, bon, ben si on est rendu là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre chose à en dire? Je ne sais pas. J'ai pas écouté la performance, mais tu me...
Je suis pas un spécialiste de ce genre de musique, c'est bien connu, là. Mais ça a plutôt été ridicule. Ridicule.
Et qu'est-ce que t'as pas aimé, mettons?
Parce que c'est le triomphe de la forme sur le fond. De la forme, de la forme, de la forme, il n'y a pas de fond.
Donc, vocalement, tu n'as pas trouvé que c'était intéressant.
C'est comme si tu chantais, de façon extraordinaire, mais tu chantais rien.
Ouais.
Tu sais, il n'y a pas de contenu.
Ouais.
Alors, ça moi, là, je décroche.
J'écris des chansons et effectivement, le message est très important pour moi aussi. Non, d'abord, pas moins que des fois, on peut apprécier pour d'autres choses. Mais je t'entends, puis je vais aller l'écouter parce que présentement, vraiment, là, je ne fais que t'écouter. J'ai pas écouté lui. Mais ça serait à voir. J'ai même pas regardé les critiques.
Disons que je trouve que son talent serait plus pertinent, si on veut, au Club 281.
Bon, on va dire, Adam, au moins Robert te trouve cute. Et sensuel. C'est dit. Hey, on a du plaisir! Ça part bien!
Je pensais jamais arriver là, moi.
Et moi non plus, mais si tu savais le nombre de conversations qu'on a eues que je pensais jamais qu'on allait se ramasser là. Robert, si tu savais, on pense d'ailleurs à ton chien de traîneau quand t'as fait du chien de traîneau,
oui.
Entre autres, et plusieurs anecdotes de ta vie rocambolesque.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ceci étant dit, je vous parle de livres aujourd'hui. On va parler beaucoup de livres aujourd'hui, mais tout d'abord, j'ai trouvé plusieurs initiatives qui utilisent l'écriture. On parlait de messages, hein, tantôt, on parle de messages de chansons qui parfois peuvent être un peu moins fournis, on va dire ça comme ça. Et l'écriture est un vecteur incroyable, une façon qui reste, je dirais, pour passer plusieurs émotions, plusieurs messages et pour inspirer les gens. Je pense, entre autres, près de chez nous, à l'initiative Écrire, ça libère, qui a été fait par Amnesty International, qui nous amenait à écrire à 10 femmes aux prises avec des problèmes judiciaires absolument injustes à travers le monde. On avait reçu d'ailleurs Mélissa Mollen-Dupuis, ici à Aime la vie, qui est co-porte-parole avec Françoise David. À l'automne dernier, je vous rappelle que cette initiative-là avait permis de libérer 124 personnes sur 161 emprisonnées entre 2000 et 2018. Ça me fait penser également aux correspondances d'Eastman, qui promeut l'écriture depuis 2003 avec des rassemblements sur des thèmes super positifs. On écrit à quelqu'un sur la planète, ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un qu'on connaît très bien, une sœur, un père. On peut décider pardonner, de se vider le cœur, de dire à quel point la personne nous est chère, de rappeler un moment où on a reçu un support et de dire merci, plein de choses. Cette année, le thème de 2019, c'est le ravissement. Tu sais, ça, c'est beau. On nous amène pendant 3 jours. Le festival va avoir lieu cette année du 8 au 11 août prochain, aux correspondances d'Eastman.
Déjà, le paysage d'Eastman est un ravissement.
Définitivement. J'ai habité en Estrie 3 ans et demi et ça me manque pour ça et j'y retournerai pour peut-être une résidence secondaire. Qui sait? Mais on parle de ravissement et je veux vous parler d'une autre initiative que j'ai trouvée qui s'appelle le Girls Love Mail, ou les filles qui aiment la poste, c'est selon, là, ou les lettres, et qui invite les gens à écrire des mots d'amour et d'encouragement à des femmes atteintes de cancer du sein. C'est un mouvement qui existe depuis 2011 et c'est 125 000 lettres qui ont été écrites depuis par des jeunes de 4e année jusqu'à 90 ans. Là, on s'entend, il n'y a pas de limite. C'est des gens du Canada, du Japon, en passant par le Brésil, la Corée, l'Australie. C'est gigantesque et surtout magnifique. Et voici un extrait. Et ça se passe maintenant, là. Ça existe. C'est présentement en circulation dans le monde. Voici un extrait d'une lettre qui a été écrite par une femme à une autre. « Chère sœur adorée, tu sais, la vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors j'espère que tu as apporté tes souliers de danse, parce que maintenant, c'est ton tour. Ton moment est arrivé. Ouvre ton âme et laisse la pluie te nettoyer. Permets à tes bras de s'ouvrir à leur tour et laisse-toi emporter. Laisse-toi voler avec le vent. Et surtout, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Pour danser, il faut 2 personnes et en tant que partenaire de danse, je promets d'être là pour toi. Laisse mes mots te relever quand tu tombes. Je vais toujours penser à toi. guidant tes pas au rythme du courage. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la foi et de tourner au son de la musique. Alors je te demande, pourrais-tu m'accorder cette danse? Signé Molly. C'est pas parce que votre ma tante favorite vous trouve drôle que tout le monde va vous trouver drôle.
Mm-hmm. Ça, oh que non.
Ça, c'est une phrase qu'on retrouve dans un livre qui a été publié aux éditions Druide, préface signée par Lise Dion. Et on a une co-auteure, une des deux co-autrices. Avec nous en studio, Sylvie Ouellette.
Bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Oh, moi, ça va toujours bien.
Ça va toujours bien, t'es une des rares.
Surtout pour parler d'humour.
Ben, ouais. Tellement. T'as écrit le livre « Écrire de l'humour ». Écrire l'humour, pardon, c'est pas des farces. Pourquoi qu'on décide, parce qu'on va se le dire, là, tu viens du monde des sciences.
Entre autres.
Tu fais un doctorat actuellement en microbiologie. Tu t'intéresses à la façon dont les bactéries mangent le fer des gens et donc pourquoi les gens tombent anémiques. Et là, tu écris un livre sur
l'humour. Et c'est pas particulièrement drôle, ça.
C'est pas particulièrement drôle.
Mais avant ça, j'ai été aussi romancière. J'ai fait un bac en journalisme. Moi, je suis une personne très touche-à-tout. touche à tout.
Tu as écrit sur la sexualité également, j'ai tu as fait de l'érotisme.
J'ai fait des romans érotiques, j'ai fait des romans historiques, j'ai fait des romans plus contemporains. Et il y a quelques années, j'étais allée faire un cours à l'École de l'humour en cours du soir, parce qu'ils offrent quand même une belle gamme de cours, les cours récréatifs à l'École de l'humour ici à Montréal. Et j'avais fait ce cours-là, l'ABC de l'écriture humoristique. Par après, mon éditeur, Druide, me contacte et me dit « Écoute, Sylvie, on aimerait ça faire un livre pour les apprentis humoristes. » C'est comment se lancer.
C'était une commande.
Oui, c'était une commande. Et là, elle me dit « Serais-tu capable de faire ça? » Puis moi, « Bien sûr, c'est toi de faire ça. »
Dans toute ta naïveté.
Et là, un coup que la vague a passé, je dis « Oh là là, comment je fais ça? » Alors, c'est là que j'ai contacté Christiane Vien, qui était ma prof à l'École de l'humour. Et elle, c'est ce qu'on pourrait quasiment appeler une roadie de l'humour. Elle fait de l'humour depuis des années. Elle était de la première cohorte de l'École de l'humour il y a de nombreuses années.
En 88.
Années. Elle enseigne là depuis. Oui. Elle a fait du stand-up comédie aux États-Unis.
Et là, tu as trouvé ton allié, ton
Alors,
bras droit.
Vous le croirez pas, mais Christiane et moi, on s'est enfermés dans un couvent pendant 5 fins de semaine pour pouvoir pondre l'opus que tu as dans les mains en ce moment.
Est-ce que c'est un processus joyeux, écrire de l'humour?
Écrire, point. L'acte d'écrire, ça demande 10 % de talent et 90 % de transpiration. C'est comme n'importe quoi. Qu'on écrive un roman, qu'on écrive un livre de recettes, il y a une partie qui nous motive, cette flamme qu'on a en nous, ce désir de le faire. Mais pour le reste,
il faut mettre du jus et de la viande autour.
Il faut s'asseoir, il faut écrire et surtout réécrire encore.
Robert, toi qui es auteur, tu dois
Je suis parfaitement d'accord avec elle.
Ben, il faut en avoir une idée, mais il faudrait peut-être...
Non, mais c'est toujours la même chose. Les auteurs arrivent en interview, on a l'impression qu'ils ont eu une idée de génie, ils ont été formidables avec
eux. Oui, et ta page 268, deuxième page.
Non, mais c'est que pour les 5 minutes pendant que tu es au micro pour parler de ton livre, tu as passé un an et demi d'être tout seul chez vous, essayer de voir si tu y arrivais correctement. Là.
Mm-hmm. Mais tu y es arrivé plutôt correctement parce que je l'ai devant moi et ce qui ressort, c'est vraiment une boîte à outils.
Oui,
c'est l'aspect pratique. C'est ça, c'est le but, c'est l'aspect pratique et ça fonctionne. On y trouve des exercices. Commencez par changer des paroles.
Changer des paroles de chanson, tout le monde peut faire ça. En fait, le livre est divisé en différents chapitres. Où, qui, quand, comment, pourquoi. Alors, pour amener le lecteur à se questionner d'abord sur sa motivation et aussi donner un peu de background, depuis quand, pourquoi l'humour au Québec et qu'est-ce qui fait qu'on est un public...
J'ai regardé rapidement votre table des matières. Mm-hmm. Je n'ai pas lu le livre parce que je viens juste de le voir. Mais il y a une section qui m'intrigue beaucoup, c'est « Pour qui ».
Pour qui?
Et ça me semble fondamental. C'est la communication de base. Mm-hmm. Avant de savoir ce que tu as à dire, pour savoir à qui tu vas le dire. Et ça, vous le développez, je trouve ça très important.
L'exemple qu'on donne, c'est que si un humoriste va faire un numéro dans une polyvalente à Gatineau comparativement à un club d'âge d'or à Baie-Comeau, c'est pas le même public. Alors, les blagues doivent être adaptées. On ne peut pas traiter des mêmes sujets, on ne peut pas en traiter de la même façon en fonction du public qui est devant nous. Et c'est là où, souvent, ça commence à déraper avec l'avènement des nouveaux médias, c'est qu'on va avoir des captations de certains humoristes qui sont avec leur public et qui vont attaquer certains sujets. Et là, c'est repiqué sur YouTube et ça part. Et là, c'est là que ça part en vrai. Et ça, c'est un autre chapitre. Le chapitre « Jusqu'où peut-on aller? »
Exactement. Et il y a même un chapitre, et je le dis pour tous ceux et celles qui veulent se procurer le livre, parce que c'est entre guillemets pour un peu tout le monde, dans la mesure où tout le monde va y trouver quelque chose qui lui manque, qu'il désire développer. Il y a même une section sur la rémunération qu'on peut s'attendre à recevoir. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des balises claires pour ne pas se faire avoir, finalement.
C'est pas compliqué, c'est de 0 à 1 million pour un spectacle.
Bon, moi, je partirais... Bon, tu sais, faisons un milieu.
Tout est dans la balance et l'équilibre dans la vie, la moyenne.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de milieux. C'est souvent peu ou beaucoup.
Ouais.
Dans ce
milieu comme ça.
Mais Sylvie, il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser. Dans le scandale actuel, des copies qui se font de cet humoriste français qui copie, ça a l'air un paquet de monde. J'ai vu ce matin le document.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que j'en pense, c'est que il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et essayer de copier, peu importe à quel point on l'adapte, à quel point on transforme pour se l'approprier, on ne peut pas berner notre public. Le public qui est friand d'humour a une expérience très vaste. Ils ont, je dirais pas, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, mais ils connaissent. Et souvent, on va entendre une blague, on dit « ça, je l'ai déjà entendu », sans pouvoir dire « ben ça, c'était une joke de Jerry Lewis » ou « ça, c'était une blague d'Yvon Deschamps ».
C'est du déjà-vu.
On sait qu'on l'a déjà entendu. Puis c'est pas long maintenant qu'on peut faire des recoupements. Comme le vidéo qui se promène sur les réseaux, on sait d'où ça vient, puis on sait comment c'est parti. Et moi, je pense, jusqu'à un certain point, c'est impardonnable. C'est sûr que comme humoriste, les gens vont souvent se ressourcer, ils vont regarder d'autres humoristes. Et inconsciemment, il y a des choses qu'on va absorber et qu'on va peut-être... ressortir par la suite, mais dans les vidéos, les comparaisons, c'est tellement, tellement flagrant. Il y en a tellement, ça ne peut plus être des coïncidences.
C'est dire. Arrivé, à ma connaissance, une fois dans l'humour au Québec, je ne nommerai évidemment personne, un humoriste avait l'habitude de copier mm-hmm. beaucoup ses confrères et consoeurs, mm-hmm. et il a été ignoré oui. des autres, oui. et sa carrière a été très handicapée à cause de ça.
Et c'est un milieu très compétitif, alors il n'y a pas de pardon,
et on appelle ça
pas de deuxième chance.
Le karma, c'est tout. C'est... Non, mais on se comprend. Sylvie, avant que tu partes, et très rapidement, t'es une touche à tout, et on parlait d'expérience très vaste, je veux savoir, est-ce que toucher à tout et toucher à ce qu'on veut toucher, c'est là la recette du bonheur? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, les auteurs, mais aussi n'importe qui ont envie de toucher à plusieurs branches? Souvent, on dit, ah ben, parpille-toi pas, comédien peut pas être humoriste, un peu pas.
Et pourquoi pas?
Qu'est-ce
pourquoi...
que tu leur dis?
Moi, ce que je dis, c'est que il est jamais trop tard. Mais il n'est jamais trop tôt non plus. Moi, j'ai fait un retour aux études. Je commence mm-hmm. mon doctorat à 54 ans. Hein? Bon, on s'entend là, que je n'ai pas de leçon à donner à personne pour « Ah, t'es pas ça, puis tout d'un coup, que... » Non, non. Essaye-le. Et ce qu'on dit, le message qu'on transporte à travers notre livre, du début à la fin, c'est en faisant ce qu'on veut faire qu'on va devenir ce qu'on veut être.
Et c'est le livre « Écrire l'humour, c'est pas des farces ». Sylvie Ouellet, merci beaucoup d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir.
On surfe la vague, on redescend, oh, oh. Le temps s'évade, on a le cœur d'un océan, oh, 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 oh. Portant un masque, visage brûlant, oh. Vent dans le bonheur, nos âmes se déchirent prise au vent, oh, oh, oh. Ici les bonnes intentions se terminant un soir, les cœurs ne sachant guérir donnent l'amour. Mensonge en mer, la 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 la, mensonge amer, la 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 la. J'ai voulu croire en ta sincérité et toutes tes promesses désormais coulaient au fond des eaux troublées. Tes allures calmes cachaient des tempêtes, tous ces mondes doux, ton ego nourri de conquêtes. Ici les bonnes intentions se terminant un soir, les cœurs ne sachant guérir donnent l'amour illusoire. Time cry, oh la, cry, cry, mensonge en mer, la 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 la, mensonge en mer, la 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 la. Le jeu change tous les jours. Le gagnant perdra au retour. J'ai tenté d'éviter tous les marins, les troubadours. Nous avons joué à deux la mascarade de l'amour. Tu peux mentir qu'à toi-même, la vérité verra le jour. Cry, lie, cry, lie, cry, lie, cry. Mensonge en mer, on souffle la vague, on redescend, le temps s'évade. Hey. Mensonge en mer, portant un masque, visage brûlant, vent dans le bonheur, nos âmes se déchirent. Mensonge en mer, j'ai cru en ta sincérité, toutes tes promesses désormais coulées. Mensonge en mer.
Mensonge en mer, Karine Sainte-Marie de l'album The Grand Voyage. Robert.
Oui, Emmanuel.
Robert.
Hey, j'ai vu plein d'affaires intéressantes depuis quelques jours. C'est ce qui m'a le plus frappé, c'est cette lettre des 6 ex-ministres de l'Environnement au Québec qui ont écrit à Legault pour que effectivement la proposition de Dominique passe comme loi. C'est ce que suggérait, mais il n'y avait pas de réponse. Mais là, que d'anciens ministres de partis différents en environnement insistent pour que ça devienne une loi, je trouve ça extrêmement fort. Habituellement, ça vient d'activistes. Là, ça vient de gens qui étaient au pouvoir et qui, quand ils étaient là, n'ont rien fait en plus. Et là, une espèce de remords, on sent derrière leur comportement, je ne sais pas. Mais ils reviennent en scène. Je trouve ça intéressant.
C'est pour faire du pouce sur cette initiative dont tu avais parlé il y a quelques semaines déjà et qui tu trouvais ça merveilleux, mais tu avais un peu peur, encore une fois, que ce soit un coup d'épée dans l'eau dans la mesure
exactement.
Où...
C'est pour ça que ça, fun, c'est pour ça que ça me réjouit de voir que là, c'est pas tout d'avoir une pétition générale, je sais pas combien de milliers ils sont rendus, mais que des gens de pouvoir... maintenant s'en mêlent et veulent vraiment qu'il se passe quelque chose. Et je sais que Legault a une certaine sensibilité à ça. Et,
il y a surtout beaucoup de pression actuellement avec le pacte, avec les démarches citoyennes.
Et j'ai vu d'autres pays récemment où on faisait ce genre de choses. Et ça existe ailleurs. Il y a des gens qui le font dans certains pays et c'est absolument exemplaire. Alors, je pense que j'espère que cette lettre va continuer à faire pression pour que ce projet de légalisation... En somme, si on veut résumer le projet en question, c'est que ce sont des lois qui aident l'écologie, mais au lieu d'être des lois qui disent on devrait faire ci, puis on devrait faire ça, puis on pourrait faire ça à tant de pourcents moins de gaz, etc., c'est, la loi dit, si vous ne le faites pas, c'est illégal.
C'est ça. C'est rendu proscrit et punissable.
C'est ça la différence.
Exactement.
Donc, c'est coercitif. Ouais. Ça oblige à le faire.
Oui.
Et ça,
des amendes
ça...
salées, là. Des entreprises qui vont... Des industries, là, c'est terminé, là. C'est une loi de non-retour.
Ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'au judiciaire. C'est-à-dire que le ministre concerné pourrait être poursuivi personnellement. Ça, c'est vraiment très grave. Et je trouve que c'est la seule façon d'y arriver.
À un moment donné, c'est parce qu'on ne comprend pas. Ben, c'est ça.
Exactement.
C'est ça. À un moment donné, il faut se fâcher.
Tu veux-tu apprendre d'autres affaires intéressantes?
J'aimerais ça.
Aussi,
il nous reste une petite minute.
Ben oui, ben, la petite minute. Le lion d'Asie sur la plante ascendante, il se disparaissait, il revient. L'autre affaire, je sais qu'il va te réjouir. Je sens que une larme va poindre au coin de ton œil.
C'est pas trop dur.
La soupe à l'aileron de requin est interdite maintenant dans 3800 restaurants de Singapour.
Non, mais parce que c'était si innocent.
C'est très, très important. En même temps, en Afrique, un quatrième pays s'engage contre le commerce de l'ivoire. Ça aussi, c'est bon.
Très.
Sauveront ces éléphants. On terminera par la guerre contre la pollution du plastique. Est lancé et il y a de nouvelles études universitaires mises ensemble à travers plusieurs universités pour joindre les forces pour se battre contre la pollution du plastique.
Et qu'on n'y mette pas encore des dizaines et des dizaines d'années avant d'avoir un résultat concret, c'est vraiment génial.
Il sera trop tard.
La vie se poursuit. Emmanuel Robitaille, Robert Blondin encore avec vous pour les 30 prochaines minutes. On essaie de vous faire sourire. On n'essaye pas. Je pense qu'on réussit. C'est ce que je disais à Robert. Pour ceux qui s'en sont pas rendus compte, j'ai un petit ton nasillard aujourd'hui parce que la grippe m'assaille encore et toujours le rhume. C'est pas la grippe, c'est le rhume. Mais c'est comme ça me donnait un petit buzz gratis et naturel. Je trouve que tout est drôle.
Tu sais, à notre époque d'une science extrêmement évoluée, on fait des choses extraordinaires, mais on n'a toujours pas trouvé de remède contre leur rhume.
Ben, gars, faut faire son temps, comme ils disent. Et on va aller en musique. Après, on entendra François nous parler justement de notre santé. Et je vous dis, on passe en musique parce que la chanson qui suit, je vous le garantis que pour moi, ça a été un gros 3 minutes de rire, de sourire et de bonheur.
Comment ça va?
Ça va pas pire.
Comment ça va?
Ça va pas pire.
Comment ça va?
Ça va pas pire.
L'estime de soi?
Ça va pas pire.
Les relations?
Ça va pas pire.
Les addictions?
Ça va pas pire.
Hey! Le célibat?
Ça va pas pire.
Les jeux de bras?
Ça va pas pire.
Les invasions?
Ça va pas pire.
Les illusions?
Ça va pas pire.
Ça va pas pire.
Ça va pas pire.
Hey!
Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Hey!
Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Hey! Hey!
Vamos a bailar.
Comment ça va?
Ça va pas pire.
Les aléas?
Ça va pas pire.
Les obsessions?
Ça va pas pire.
La soumission?
Ça va pas pire.
Hey! Les deux de joie?
Ça va pas pire.
Les deux du froid?
Ça va pas pire.
L'orang-outan?
Ça va pas pire.
Les ouragans?
Ça va pas pire.
Ça va pas pire.
Ça va pas pire.
Hey!
Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Hey!
Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Hey! Hey! Un, dos, tres, un, dix, deux, deux, trois, et quatre, cinq, six, ça veut la carte. C'est un perroquet qui veut gémir, mais tous voyons montrer à dire ça va pas pire, ça va pas pire, ça va pas pire, ça va pas pire. Hey! Un, dos, tres, un, dix, deux, deux, trois, et quatre, cinq, six, ça veut la carte. C'est un perroquet qui veut gémir, mais tous voyons montrer à dire ça va pas pire, ça va pas pire, ça va pas pire, ça va pas pire.
Hey!
Ça va pas pire.
Hey!
Ça va pas pire.
Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Hey!
Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Hey! Hey!
Vamos a bailar.
Je regardais un article, c'est pas nécessairement un article, c'est une vidéo qui était disponible sur les réseaux sociaux récemment, plus ou moins récemment, et qui parlait à quel point l'addiction au fromage est réelle et qu'il ne faut pas rire des gens qui ont de la difficulté à lâcher cet aliment-là. Pour de multiples raisons, là, des intolérances pour la santé, pour des raisons de vouloir aller vers un véganisme, donc un mode de vie qui n'inclut pas les produits dérivés d'animaux. Mais c'est « the struggle is real », c'est ça qu'on dit en anglais. Le combat est réel et François Baruel, t'es en studio. Bonjour oui. François, t'es là pour nous apporter une bonne nouvelle.
Une très bonne nouvelle.
Pour ceux qui vivent le struggle de lâcher le fromage. Ça ne veut pas dire que c'est juste mauvais le fromage. Au contraire, certaines personnes pourraient changer d'idée après t'avoir entendu et vouloir le conserver.
Voilà, exactement. Là, c'est un article qui est sorti dans Allergy. Et c'est une étude qui a été faite sur encore une très grande cohorte, comme d'habitude, parce que sinon ce n'est pas très valable, une grande cohorte d'enfants qui étaient en milieu rural, qui étaient en milieu urbain, mais qui ont mangé dès le plus jeune âge, très tôt en fait, du fromage sous toutes ses formes, que ce soit du fromage à pâte dure, à pâte molle, du bleu, du tout ce que tu veux, hein, du yaourt, du lait, etc. Tous ces enfants qui ont mangé du fromage tout de suite, dès leur naissance, ou pratiquement, enfin j'exagère, mais très rapidement après leur naissance, n'ont pas fait d'allergie à ces aliments. Ils n'ont pas fait non plus, et ça c'est plus intéressant, ils n'ont pas présenté d'eczéma ou de dermatite atopique.
On a un lien avec les ouais. troubles cutanés.
Exactement, c'est-à-dire les troubles allergiques cutanés. Donc c'est très intéressant ça, c'est que si on leur donne très tôt, ils s'habituent à tous les composants des fromages et des produits laitiers, et ça leur évite d'avoir des problèmes de peau, et des problèmes d'allergie alimentaire. Ça diminue les risques d'allergie alimentaire.
Et pourtant, mais parce que ça me questionne, parce que tu sais que je suis, ben, je ne suis pas vegan, mais je travaille très fort vers l'être. Pour moi, le fromage, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. J'en prends sans lactose parce que je suis intolérante, mais le struggle is real. Moi, j'en fais partie. Et ça demeure aussi un questionnement parce que le guide alimentaire canadien a changé énormément ses libellés concernant les produits laitiers. C'est vraiment pas bon, des produits laitiers pour l'être humain. Mais là, nous, on va s'ostiner, toi puis moi, mais en tout cas, puis on réussira pas à arriver à un consensus. N'en demeure pas moins que ça va lever des questionnements chez les auditeurs. Vous êtes probablement plusieurs aujourd'hui à froncer les sourcils. Comment on met ça ensemble? Parce que il y a quand même un semblant de contradiction, on va se le dire.
En fait, j'ai toujours l'impression qu'on arrive à des excès. C'est-à-dire que maintenant, avant, on buvait que du lait, on mangeait que des fromages, etc. Ensuite, on a dit le lait, c'est mauvais, c'est dangereux, et le véganisme est arrivé là-dessus. Et en fait, c'est toujours le moyen terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. S'il y a du lait, et si depuis toujours on a bu du lait, c'est que les enfants ont bu du lait, c'est que c'est peut-être pas mauvais pour eux forcément. La preuve, c'est qu'ils développent moins d'allergies alimentaires et moins d'eczéma ou de troubles allergiques de la peau. Ensuite, on s'est aperçu qu'en Israël, de la même manière, lorsqu'on donne des peanuts aux enfants très tôt, du houmous, tout ce qu'on veut, des petites graines, etc., les enfants ne déclarent pas beaucoup moins d'allergies.
Mais c'est la loi de l'exposition, mais en même temps...
C'est la loi de l'exposition.
Mais en même temps, cette exposition-là peut créer d'autres problèmes. Il y a d'autres allergies qui se développent avec une trop grande exposition, trop rapide.
Lesquelles?
À certains... Latex, entre autres.
Ah, le latex, mais ils sont allergiques au latex, c'est autre chose, oui, bien sûr.
Non, mais tu sais, il y a plusieurs allergies comme ça où tu fais comme, il y a eu trop d'affaires, d'autres, c'est pas assez. Je pense que ça dépend, tu sais...
Le latex sur la peau n'est pas... Écoute, je ne sais pas très bien. Le latex, c'est vrai qu'il y a des allergies au latex.
Et il y a les allergies croisées également.
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des allergies croisées. Mais le fait est que lorsqu'il y a une exposition depuis toujours et depuis très tôt à ces produits qui sont allergisants, eh bien, on ne trouve pas d'allergie. Après, chez les enfants, ils sont beaucoup moins allergiques. Par contre, ça ne diminue pas du tout les problèmes bronchiques et asthmatiques.
Ben parce que c'est beaucoup de mucus, c'est relié nécessairement à un engagement dans les bronches.
Oui, il faut regarder parce qu'en fait, c'est un problème d'immunité un peu déplacée, si je puis dire, hein, puisqu'il y a une allergie, c'est après tout ça. Hein. Avec le microbiote qui se fabrique grâce au lait et grâce aux produits laitiers.
Ça, c'est notre environnement microbien dans l'intestin.
C'est ça. Le microbiote, c'est toute la population microbienne qui s'occupe de nous et qui fait notre bonheur. Parce qu'en fait, sans ce microbiote, on ne pourrait pas vivre. Il y a une stimulation de l'immunité. Et donc, on pourrait se demander, il y a une stimulation de l'immunité dans le bon sens. Donc, on pourrait très bien se dire, on pourrait se dire aussi, est-ce que ça pourrait améliorer, puisque le microbiote est là, est-ce que ça pourrait améliorer certaines allergies du genre asthmatique, puisque du genre bronchique, puisque cette exposition pourrait nous améliorer, pourrait améliorer l'immunité aussi, donc de ce côté-là. En fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a toujours des allergies, il n'y a pas de diminution de l'asthme. Par contre... Donc,
sur le plan cutané, sur d'autres plans, ça peut être super bon. Mais morale de cette histoire, de donner du fromage, de multiples fromages à nos enfants à très bas âge, de l'intégrer rapidement dans l'alimentation, ça peut leur servir à long terme. Par contre, ça peut les rendre dans la gang de le struggle is real que je nommais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous prenez quand même, on prend tous la chance de les rendre accros au fromage, qui est une dépendance qui est réelle et qui n'est pas à sous-estimer dans ce monde.
Mais c'est pas c'est une dépendance qui n'est pas forcément mauvaise, à mon avis.
À vous de prendre votre décision. Merci, François.
En 67, tout était beau. sont disparus. Puis moi non plus, je me reconnais plus. On est 10 000, sa rue Saint-Paul. Avec le blues de la métropole. Je sais plus quoi dire.
On parlait justement de reprise musicale et on a fait ce parallèle-là hors micro, à micro fermé, quand on a parlé de la reprise des gags, du plagiat littéralement, et on se disait, ouais, mais en musique, on fait des reprises, puis on n'a pas ce même... C'est pas la même affaire, c'est pas le même litige, c'est pas la même... C'est pas aussi grave, on dirait.
C'est même pas grave du tout, parce que c'est une œuvre qui reste intégrale et qu'on interprète à sa façon. C'est la même chose de jouer une pièce de Molière pour la 800e fois, mais de façon différente. Ça, c'est pas de la copie, là, c'est pas du plagiat.
Ah, mais moi, je suis tout à fait de ton avis. Et justement, on vient d'entendre le blues de la métropole de Juliana et Jesse, qui a été tiré de l'album In Time, All Things, qui est une magnifique reprise de Beau Dommage. Et je veux dire, c'était à une couleur, une saveur différente. Et moi, je trouve que des chansons comme ça, on peut les reprendre ad vitam aeternam. Si c'est bon, prenons-en encore.
C'est comme ça que des compositeurs vivent depuis 300 ans, que Mozart est encore écoutable. Tu sais?
C'est vrai.
Des orchestres les reprennent. C'est ça, une grande œuvre est toujours reprise.
C'est vrai. En autant que... Mais il y en a certaines que je trouve qui manquent un petit peu d'originalité. Faudrait y apporter une petite twist.
Est-ce que tu sais celle qui a été le plus reprise dans l'histoire de la chanson, toute langue confondue?
T'es-tu dans le classique, toi, là?
Non, on est dans la chanson.
On n'est pas dans le Moonlight Sonata, là. J'aurais aimé ça. Laisse-moi le temps.
Les feuilles mortes.
C'est vrai?
C'est ce qui a été le plus reprise dans je ne sais pas combien de langues. Et l'auteur, Cosma, a empoché des millions de dollars de droits. C'est ça, la deuxième après Les Feuilles mortes. C'est encore une chanson française. C'est La mère de Charles Trenet.
Ah, ben là.
Et la troisième, encore une chanson française, qui était My Way en anglais.
Ouais, et celle-là, j'y allais.
C'est ça.
Celle-là, je l'aurais.
Là, t'as les trois finalistes.
Oui, c'est ça. Des plus gros cachets d'auteurs, compositeurs. Félicitations à tous les trois. Le mot. On est des amateurs de mots et on est casaniers présentement. Moi, j'aime mieux la raclette que la raquette. Donc, je suis très... Oh, c'est bon, hein, Bouroum? C'est mon rhume.
Non, mais garde-la, celle-là.
C'est mon rhume qui me fait
ça. Ça
se
chanterait, ça.
OK.
Avec un petit côté yodel.
Hey, yodel-moi ça. Hey, tu m'inspires. On se crée des activités. Mais parce que c'est vrai, on est très casaniers présentement, à moins que vous soyez amateurs de ce qu'ils font.
Imagine, là, un petit yodel, j'aime mieux la raclette que la raquette. C'est un hit,
ça. C'est pas de bon sens.
C'est un hit, ça.
Hey, ça devrait être illégal. Et sincèrement. Et on parle de mots, on parle d'écriture. Regarde, dans le mois de février, en plein hiver, moi, je suis encore très papier-crayon. Toi aussi, Robert, on en a parlé souvent. Je ne sais pas, vous, à la maison, si vous êtes des amateurs de mots, de mandala, sortez vos feuilles, sortez vos crayons. Profitons-en pour créer, pour s'inspirer également. Et on continue de parler de mots parce que, très bonne nouvelle, il y a un nouveau mot qui pourrait faire son apparition dans le dictionnaire. Il y en a beaucoup, il y en a souvent, là, on va se le dire. Là, les accents circonflexes, c'est plus obligé là, si là, ça change pas le... En tout cas, non.
J'invoque le 5e amendement pour nous dire là-dessus.
Parfait.
Je me cache derrière mon grand âge.
Parfait. Le mot qui va...
Âge avec un accent circonflexe.
Parfait. Le mot qui pourrait et qui devrait, à mon sens, voir le jour prochainement, c'est le mot « peace building ». Un mot qui a été inventé dans les années 70 par le Norvégien Johan Galtung. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Johan, je m'excuse. C'est un mot pour définir les actions concrètes portées pour instaurer la paix. Et il y a des membres d'organismes à but non lucratif qui œuvrent pour la paix dans le monde, comme Search for Common Ground, qui étaient tannés de voir que c'était toujours souligné en rouge dans Word. Tu sais, quand t'écris dans Word, puis qu'ils disent « ça existe pas ». Parce qu'eux, ils se disaient « I am working in a peace-building organism », un organisme qui vise à mener des actions concrètes pour la paix. Tu me suis? Et ils se sont tannés. Ils se sont dit, on est des bâtisseurs de paix et on veut que ça change. Et s'en est donc suivi une pétition sérieuse par beaucoup d'organisations tout aussi sérieuses comme le International Alert, le Peace Direct, le Conciliation Resources, puis j'en passe bien sûr, parce qu'effectivement, on soulève le nombre de nouveaux mots impertinents qu'on ajoute au dictionnaire alors que ce terme-là est super sérieux. Il est utilisé depuis 40 ans pour faire le bien et n'arrive pas à laisser sa trace. Et c'est 7 millions de recherches de ce mot-là dans Google actuellement.
Ils font un mot avec les deux mots, c'est ça?
Oui, oui.
Ah, OK, d'accord.
Oui. Oui, on veut que le mot « peace building » existe et c'est en train de se réaliser, du moins, en tout cas, idéologiquement, là, actuellement, là, ça commence à être entendu. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on utilise de plus en plus ce mot-là, ce qui veut dire qu'on fait de plus en plus d'actions concrètes dans la paix.
Tu dirais quoi en français pour ça? Pacifiste, ça te tente-tu?
Le « peace building ».
Un pacifiste, il milite pour la paix.
Oui, mais peace building, on dirait
c'est
que c'est plus un verbe d'action. Fait qu'il faudrait dire faire preuve de pacifisme, donc...
Un pacificateur.
Ça, c'est un qualificatif.
Le concours est lancé.
Et plonger tête première. On pourrait s'enfuir et traverser les frontières, dépasser les doutes d'hier et avancer sans trop penser. Les pieds dans le vide, le regard vers l'avant et y croire. Nos repères, on pourrait bâtir peu à peu notre univers, un dessin dont on serait fier et avancer. We'll be right back.
Les pieds dans le vide. Alicia Deschaine, l'album vient de sortir comme June M. Johnny, Alicia, qui fait sa trace dans le monde de la musique depuis une dizaine d'années, qui enfin a son premier opus, qui est merveilleux. En fait, c'est un super bon album. Les critiques sont excellentes. Je vous rappelle d'ailleurs que les chansons qui sont jouées à Aime la vie, quelques-unes, pas toutes, mais quand même, grande inspiration que vous pouvez également avoir en allant visiter le palmarèsadisque.ca. Ah, comme à chaque semaine, c'est Journée mondiale et internationale! C'est assez excitant, ça!
Ça dépend pour qui.
Oui, c'est ça. Rapidement, je vous informe que le 5 février, c'est la Journée mondiale du Nutella. Pour vrai, non, mais attends.
Hey, ils ont découvert que c'était pas bon pour la santé, cette affaire-là.
Mais tu gages, tu... Ouais, ben, je suis flabbergasté. Je tombe en bas de ma chaise.
Ils ont des problèmes avec ça, là. Ils veulent changer la formule justement parce qu'il y avait des choses trop nocives.
Ben oui, mais voyons, il n'y a rien là-dedans. Il y a juste du sucre et de l'huile de palme. Mais c'est justement...
Ben, l'huile de palme n'est pas bonne, le sucre non plus.
Le 5 février, c'est la Journée mondiale du Nutella, qui est une journée qu'on doit à une blogueuse et fan du Nutella, Sarah Rosso.
Ah, oh, c'est elle qui a décidé ça.
C'est elle.
Ah, oh, OK, OK.
Et,
bon,
mais qui reste pour moi une journée, c'est exactement ce que j'allais dire, un peu questionnable comme dans Abanir, hein, parce que on connaît bien la contribution du Nutella dans l'utilisation de l'huile de palme et la contribution de l'utilisation de l'huile de palme dans la destruction de nos forêts tropicales. Bref, le fait qu'une marque devienne...
Et de la flore intestinale.
Et le fait qu'une marque devienne populaire au point d'avoir sa journée mondiale...
Non, c'est pas populaire à ce point-là, c'est elle qui a décidé ça, là.
Ben voyons, ben oui, mais seulement on a suivi... Et ça exprime quand même son goût indéniablement onctueux, surtout avec dans les Ferrero Rocher. D'ailleurs, on doit l'invention du Nutella aux frères Ferrero, petit fait anecdotique. Mais vu le coût de ce bon goût, je dis passe. Bref, j'en profite pour nous rediriger tous parce que j'ai de la difficulté avec le concept de soulever un problème sans amener des solutions. Donc, je nous redirige tous, oui, vers des tartinades chocolatées sans huile de palme. Ça existe, Robert.
Ben,
ça existe, tout le monde.
Ça existe. Certain que ça existe.
Fait que mettons qu'on n'est pas capable de s'en passer parce qu'on a la dent sucrée. Hein? Parce que c'est ça. On est un peu addict au chocolat.
C'est plein d'excellents chocolats. Il n'y a pas d'huile de palme. Hein?
La marque Kirkland utilise l'huile de tournesol. Il y a Juliette et chocolat, première moisson, et Lindt s'en vient également avec sa propre tartinade chocolatée qui, en plus de ne pas contenir d'huile de palme, contiendra 40 % de noisettes comparativement à 13 % pour le Nutella. Donc, tout le monde en ressort gagnant, même les orang-outans. Ça rime en crime. Hein? Tu me suis? OK. Journée. Et le 6 février, Journée mondiale sans téléphone mobile, suggérée en 2001 par l'écrivain indépendant français Phil Marceau, qui voulait prendre 3 jours de retrait de cette technologie, disons-le, accaparante. C'est depuis 2004 que la Journée mondiale est devenue les Journées mondiales, donc qui s'étendent du 6 au 8 février. C'est le temps de ressortir nos appareils photo numériques non connectés à Internet, les cartes géographiques papier, les bottins téléphoniques, les lecteurs CD, les Walkman, si vous en avez encore à la maison, qui sont fonctionnels. Parce que je ne sais pas si le iPod serait accepté dans cette journée-là. Sais-tu, Jean-Sébastien, tu me regardes avec un air dubitatif.
Il n'y a pas grand-chose qui va être accepté par les gens. Je connais pas 3 personnes qui suivraient une journée comme
c'est-tu
ça.
C'est-tu vrai?
Les gens sont complètement dépendants de cet appareil-là, mais de façon... Tu sais qu'en psychologie, maintenant, il y a une maladie qui est nommée par rapport à l'addiction.
C'est sûr que oui.
Au téléphone, là. Je connais plein de gens qui sont des gens brillants et qui, à toutes les 18 secondes, ouvre le téléphone, soit pour lire quelque chose ou pour mettre quelque chose sur Facebook pour dire qu'ils sont en train de prendre un café puis qu'il est trop sucré, tu sais.
Ben, c'est justement le temps, si vous en avez encore, de la créativité, sortez-la, parce que on s'entend que les salles d'attente, les pauses au travail, les itinéraires en transport en commun, la soirée en tête-à-tête avec soi-même, ça risque de passer beaucoup moins vite. Donc, faut faire preuve de créativité. Petit fait cocasse, le 6 février a été choisi pour concorder avec la Saint-Gaston en écho à la chanson de Nino Ferrer, « Gaston, il y a téléphone qui sont ».
Gaston, il y a le téléphone qui sont et il n'y a jamais personne.
Alors voilà, c'était les Journées mondiales et internationales de la semaine. Et je te pose une petite colle côté français, Robert. T'aimes la langue française. Est-ce qu'on dit « Ah, les premiers amours » ou « Ah, les premières amours »
Les premières amours.
Pourquoi?
parce que ça comprend un homme et une femme, et que c'est le seul endroit où la femme domine l'homme.
Ah, il a tellement gagné! Et tu as 100% pour Robert Blondin. Robert, merci d'avoir été là. Merci pour ton érudition, français. Merci tout le monde, on se dit à la semaine.